Chapitre 24. Le capitaine Norcross se réjouissait de voir les défenses de Renda-sur-Bay s'améliorer jour après jour. Peuplé de pêcheurs, de tisserands, de charpentiers de marine et de fermiers, le village était depuis trop longtemps victime des Norukaïs. Grâce aux fortifications qu'érigeaient les Darans, la situation changerait. Cela dit, Renda-sur-Bay ne serait jamais une citadelle ni une ville de garnison. Pour se défendre, ces braves gens étaient prêts à se battre, mais ils n'avaient rien de soldats d'élite. Peut-être, mais ils arboraient fièrement leurs cicatrices. Après le combat mené aux côtés de Nietzsche et de Nathan, leur état d'esprit avait changé. Résolus à ne plus être des agneaux sacrificiels, les villageois avaient rebâti leurs maisons, triplé la garde, organisé des surveillances en mer et renforcé régulièrement leurs défenses. Le corps expéditionnaire d'Aran était arrivé quelque temps plus tôt. Prenant la mesure de la situation, le général Zimmer avait divisé ses forces en deux. Parti pour surplomb du monde avec 50 hommes, il avait laissé Norcross en arrière. Sega et lui avaient juré de protéger Renda-sur-Bay, mais à 50, il risquait de ne pas faire le poids face au terrible Norukaï. En cette agréable matinée, Norcross, campé sur le quai, observait le port. La brume dissipée, les bateaux de pêche avaient pris la mer, avides de profiter des derniers jours de beau temps. Partout, les gens salaient et fumaient leurs poissons en prévision des mauvais mois. Dans les collines, les brebis et les moutons les plus gras seraient bientôt passés au fil du couteau. Les autres fourniraient de la laine et du lait dont on tirerait un délicieux fromage. En sus de leurs tâches quotidiennes, les villageois travaillaient jour et nuit avec les soldats. Si les esclavagistes revenaient, il fallait que tout soit prêt pour les accueillir. De par sa formation, Norcross était un expert en matière de défense, d'armes et de tactique. Dans son groupe, trois sous-officiers avaient les compétences requises pour fabriquer des catapultes et d'autres surprises qui déplairaient sûrement aux Norukaïs. Pour le jeune capitaine, les choses étaient claires. Aucun répit tant que le village ne serait pas en sécurité. Un combat contre le temps, car chaque journée, qu'elle fût ensoleillée ou grisâtre, pouvait voir se découper à l'horizon les voiles des redoutables galères à tête de serpent. Le nouveau bourgmestre de Renda-sur-Bay, Thaddeus, nommé après que son prédécesseur fut tombé face aux Norukaïs, vint rejoindre Norcross pour évaluer l'avancement des travaux sur les deux tours de garde qui flanquaient désormais le port. Constitués de blocs de pierre achetés dans des carrières un peu partout sur la côte, les deux édifices n'avaient rien d'esthétique, mais ils seraient très efficaces lorsqu'il s'agirait de cribler de flèches les envahisseurs venus de la mer. À la lisière de la baie, trois grands navires montaient la garde comme des molosses.
« Quand en aurons-nous terminé ?» demanda Thaddeus. « Jusque-là, je crains de ne pas pouvoir fermer l'œil de la nuit. »«
Lorsqu'il faudra être prêt, nous le serons, » affirma Norcross. « Dès à présent, en cas d'attaque, nous sommes en mesure de résister. Chaque jour de plus nous rend encore meilleurs, voilà tout. »
Thaddeus hocha pensivement la tête.
« C'est bien. » Mais nous n'aurons pas de repos tant que les Norukaïs, après une bonne dégelée, ne décideront pas de nous ficher la paix. »
Le jeune capitaine continua à rassurer son nouvel ami.
« Mes hommes et moi, nous appartenons à l'armée de Dara, et ça n'est pas une petite référence. Pourtant, en cas de bataille, nous aurons besoin de tous les villageois. Oui, du gamin qui manie une rame jusqu'à la grand-mère qui frappe avec sa poêle à frire. Les gens qui se battent pour défendre leur foyer ne doivent jamais être sous-estimés. »
Thaddeus tourna la tête vers une colline proche.
Si nous avions appris à nous battre plus tôt, il n'y aurait pas autant de poteaux de bois au milieu des stèles.
Le lendemain du départ du général et de la dame abbesse, Norcross avait visité le cimetière en compagnie du bourgmestre. Alors que les stèles honoraient la mémoire des défunts, les poteaux de bois portaient les noms des malheureux assommés puis traînés dans les galères par les esclavagistes.
Votre cimetière, avait dit Norcross, devrait être un lieu où reposent de dignes grands-pères et grands-mères morts dans leur lit en présence de leur famille. Ça, c'est une horreur.
Oui, ça devrait être ainsi, mais nous en sommes loin.
En plus du vacarme permanent des maçons et des charpentiers qui œuvraient sur les tours de garde, on entendait en permanence celui des forgerons occupés à fabriquer des lames d'épée, des fers de lance et des piques. Entendant un bruit métallique plus aigu dans le lointain, Norcross tourna la tête vers la mer, mit une main en vision et sonda l'horizon. Au sommet de la tour sud, un maçon agita les bras puis cria
« Un bateau revient, et on dirait qu'il a le gardien à ses trousses !»
Norcross et Thaddeus coururent jusqu'à la tour la plus proche, gravirent 4 à 4 les marches et déboulèrent sur la plateforme de garde. Même si les travaux n'étaient pas terminés, les défenseurs avaient déjà apporté des paniers de flèches à la tête enduite de poids, des caisses remplies de grosses pierres rondes et un nombre impressionnant d'arcs en attente d'être bandés. De chaque côté du port, une catapulte de fabrication artisanale se tenait prête à expédier sur les galères de gros rochers enrobés de poids enflammés. De son point d'observation, Norcross repéra un bateau solitaire qui fonçait vers le port. À la proue, le pêcheur tapait sur une casserole avec une grosse louche. Regrettant que le bateau ne puisse pas aller plus vite, le jeune capitaine se tourna vers son compagnon.
« Alerte tous les villageois! Quelque chose ne sent pas bon et il faut se préparer au pire !»
Thaddeus transmit l'ordre. Aussitôt, des messagers allèrent sillonner les rues pour répandre l'inquiétante nouvelle. Abandonnant les sites de construction, les soldats d'art enfilèrent s'équiper et s'armer. Des villageois descendaient déjà des collines ou accouraient depuis des maisons un peu excentrées. Suivant des yeux le bateau qui fonçait aussi vite que le vent voulait bien le pousser, Thaddeus l'identifia très vite.
« C'est le Bégonia. On dirait que Kenneth tente de fuir une tempête. »«
Non, c'est autre chose. Il fuit, oui, mais pas les éléments. »
Debout à la proue de son bateau, le pêcheur barbu et chevelé continuait à taper sur sa casserole. Lors de l'arrivée du corps expéditionnaire d'Aran, c'était lui, Kenneth, qui était venu à la rencontre des 3 navires qui transportaient Zimmer et ses compagnons. Guidés par Oliver et Peretta, les bâtiments commerciaux réquisitionnés avaient caboté à l'aveuglette des jours durant. Commandés par les capitaines Mills, Strecker et Donnell, ils gardaient désormais l'entrée du port, trop petit pour accueillir des navires de cette taille. À 7 heures, les voiles ferlées, ils abritaient des équipages très réduits, pour l'essentiel des marins qui préféraient dormir sur le pont plutôt que chez l'habitant, dans des chambres bondées. Faute de pouvoir être utile à terre, les 3 capitaines avaient insisté pour rester à bord. Quand le Bégonia entra enfin dans le port, Kenneth beuglant à présent à tue-tête, Norcross distingua enfin à l'horizon les navires qui le poursuivaient.
« Des galères !» souffla Thaddeus, la voix tremblante. « Ce sont les Norokai !»
6 bateaux, très exactement.
« C'est 2 fois plus que la dernière fois !»
gémit Thaddeus.
« Et même avec l'aide de Nietzsche, nous les avons repoussés de justesse. Comment résister à 6 galères ?»«
Nous vous montrerons !»
dit Norcross, très sûr de lui.
« Depuis notre arrivée, nous mettons au point des plans et nous aidons les gens à se préparer. Les défenses de Renda sur Bay sont plus solides que jamais. »«
Peut-être, mais nous ne sommes pas prêts. »«
Bien sûr que si. Par les esprits du bien, vous n'avez pas le choix. »
Se détournant, Thaddeus dévala les marches de la tour. Norcross cria à ses soldats de se masser sur le quai et de ne pas céder 1 pouce de terrain. 50 hommes, ça n'allait pas faire beaucoup.
« Chacun d'entre vous devient un officier et prend un groupe de villageois sous son aile. Cette fois, vous le savez, nous avons des surprises pour les esclavagistes. Botons-leur les fesses, histoire qu'ils ne se remontrent jamais. »
Conscients des risques encourus, les hommes lancèrent quand même des vivats. En leur chef, ils avaient une confiance aveugle. En son fort intérieur, Norcross se sentait bien trop jeune et manquant d'expérience. À 25 ans à peine, il n'était pas prêt à assumer de telles responsabilités. Alors qu'il avait participé à 2 batailles seulement, voilà qu'il devait commander une poignée d'hommes probablement aussi peu aguerris que lui. Avec pour soutien des villageois pleins de bonne volonté, certes, mais bien souvent battus à plate couture par les esclavagistes. Eh bien oui, les choses étaient ainsi, mais il faudrait faire avec, personne n'avait le choix. Le général Zimmer, se souvint Norcross, avait lui aussi été propulsé à un poste qui dépassait en principe ses compétences. Prenant le taureau par les cornes, il avait fait face, devenant vite un chef de valeur. En ce jour, Norcross comprenait mieux qu'il ne l'aurait voulu ce qu'on éprouvait dans une situation pareille. Quoi qu'il arrive, il ne décevrait pas son général et le seigneur Rall. Dès que le Bégonia eut accosté, Kenneth jeta l'ossière autour d'une bitte d'amarrage, la noua et sauta de son bateau. Au pas de course, il alla rejoindre les soldats.
« Vous les avez vus ? 6 galères, juste dans mon sillage !»
« Renda sur Bay est prêt à les recevoir !»
dit Norcross, venu retrouver ses hommes.
« Les défenses s'organisent. Kenneth, merci de nous avoir prévenus. Grâce à toi, nous aurons 1 heure de plus pour nous préparer. »
À côté du capitaine, Thaddeus tenta de se montrer aussi confiant que lui.
« Renda sur Bay ne sera pas de nouveau pillée, pas sous ma direction. Les Norokai croient avoir affaire à des agneaux bien gras, mais nous savons nous battre désormais. »
Les servants des catapultes filèrent rejoindre leur poste. Tirant des charrettes lestées de grosses pierres et de tonneaux d'huile, des villageois déboulèrent sur les quais. Au large, des canots approchaient des trois gros navires. Au sommet des tours de garde, des villageois étaient déjà en position. Bien entraînés, ils pourraient se montrer redoutables. Partout, des cloches sonnaient pour prévenir les derniers défenseurs. Une main en visière, Norcross regarda les six galères à l'approche.
« On vous attend !»
marmonna-t-il entre ses dents.
« Venez prendre une bonne leçon !»
Poussé par la magie du dieu serpent, celle que les mécréants appelaient le vent, les galères fondaient sur leur proie. Renda sur Bay, ce village tant détesté depuis la dernière attaque. La vigie de Cor avait repéré le bateau de pêche. Bien entendu, le capitaine avait engagé la poursuite, mais le fichu pêcheur devait commander une magie bien à lui ou avoir les faveurs de mer la mer, car il avait conservé son avance. À le voir, on eût dit qu'il volait au-dessus de l'onde, une explication comme une autre. De toute façon, ça ne changerait rien. Renda sur Bay était fichu.
« Il va les avertir, Cor !»
dit le second du capitaine, un colosse au bras et au cou tatoué.
« Nous n'aurions pas dû le laisser filer. »«
Le laisser filer? De quoi parles-tu? Tu aurais voulu le rattraper à la nage et couler son bateau avant qu'il accoste ?»
Le colosse recula.
« Non, capitaine !»
Dans des circonstances normales, la remarque du second aurait été une insulte. Du coup, Cor l'aurait frappé, lui fracturant la mâchoire avant de le jeter par-dessus bord. Mais pour l'instant, il avait besoin de tous ses guerriers. Si c'était son destin, l'insolent crèverait pendant le raid. Dans les deux galères qui suivaient directement celle de Cor, les sémaphores de Lars et de Yorick envoyaient des messages, un prologue à l'attaque, tout simplement. Lors des raids, il n'était jamais question de stratégie. Les galères fonçaient, investissaient le port, puis les guerriers filaient à terre dans des canots. La première vague nettoyait les quais et incendiait toutes les structures susceptibles de l'être. Ensuite, le jeu consistait à tuer et à capturer. Systématiquement, tout prisonnier inapte au travail forcé était égorgé sur le champ. Comme les autres, ce raid visait à collecter de la viande sur pattes, afin de la vendre le long de la côte. Mais il devait aussi envoyer un message aux autres cibles potentielles. Selon les ordres du roi Calvert, Cor entendait raser Renda sur Bay pour n'en laisser que des ruines fumantes visibles à des dizaines de lieues à la ronde. Se penchant un peu, Cor admira la tête de serpent hérissée de piques qui servait de bélier en cas d'abordage. En trois occasions, le capitaine avait vu le véritable dieu serpent et aucune sculpture n'aurait pu égaler sa sombre majesté et sa terrifiante splendeur. Mais Cor et ses hommes n'auraient pas besoin de lui pour terroriser les villageois. Leur fléau, ce n'était pas le dieu, mais les indomptables Norokai. Sur la rive, les futurs esclaves et les cadavres potentiels s'agitaient comme des fourmis paniquées. Avec sa bouche et ses joues mutilées, Cor voulut dessiner un sourire qui se transforma aussitôt en rictus. Les yeux plissés, il observa le théâtre de son prochain triomphe, comme il avait hâte d'y être.